Abbé Vincent Ripton, vous êtes prêtre de la fraternité Saint-Pierre à Pau. Écoutez, merci beaucoup, Abbé Vincent Ripton, d'être avec nous, parce que dans cette semaine de Noël, vous nous proposez la contemplation, de contempler le mystère de Noël à partir de belles pages de la littérature. Alors, littérature chrétienne, celle des pères de l'Église, mais également profane, et même vous avez choisi des auteurs qui ne sont pas obligatoirement des saints de Vitraux ni des grenouilles de Bénitier. Alors je crois que la première contemplation, vous nous la proposez à partir du texte de Père de l'Église, monsieur l'abbé.
Exactement, et peut-être avant de vous citer quelques-uns de ces textes, je crois qu'il est important de dire qu'il est difficile avec des mots humains de décrire finalement ce mystère admirable de la nativité, parce que devant un Dieu qui se fait homme, et même petit enfant, l'intelligence vacille. Donc il est certain que les textes que nous allons citer, qui sont magnifiques et très nourrissants pour nous intérieurement, eh bien restent encore très en deçà, finalement, de la réalité du mystère de l'incarnation, où nous voyons le Verbe incréé de Dieu, ce Logos divin, hein, ce Fils de Dieu, eh bien se faire homme, prendre une chair comme la nôtre pour venir auprès de nous, établir cette communication, cette communion qu'il veut avec nous, et puis réaliser aussi notre salut. Alors cela, les pères de l'Église, bien sûr, l'ont contemplé. Les textes que nous allons citer sont le fruit de leur méditation, de leur prière. Alors tout d'abord, citons Origène, un docteur de l'Église qui est un théologien qui est né à Alexandrie vers l'an 185 et qui est mort à Tyr vers l'an 253. Donc, il a ce beau texte sur Dieu se faisant petit enfant. Parmi les grandes choses et les merveilles que l'on peut dire du Christ, il en est une qui dépasse absolument l'admiration dont est capable l'esprit humain. Et la fragilité de notre intelligence mortelle ne sait comment la comprendre ou l'imaginer. C'est que la toute-puissance de la majesté divine, la parole même du Père, la propre sagesse de Dieu, en laquelle toutes choses ont été créées, les visibles comme les invisibles, s'est laissée enfermer dans les limites de cet homme qui s'est manifesté en Judée. Tel est l'objet de notre foi, et il y a plus encore, nous croyons que la sagesse de Dieu est entrée dans le sein d'une femme, qu'elle est née dans les vagissements et les pleurs communs à tous les nourrissons. Très beau texte d'Origène qui nous montre justement, voilà, Dieu se faisant petit enfant. On peut parfois avoir un sentiment un petit peu d'écrasement devant la transcendance divine. Dieu qui a tout créé, nous sommes si petits dans l'univers et voilà que, eh bien, il ne veut pas que nous ayons peur de lui, alors il s'approche de nous comme petit enfant. Et c'est ce que vient de nous montrer Origène. Un autre beau texte que je vous citerai, celui de Saint Grégoire de Nazianze, qui lui vécut à peu près de l'an 329 jusqu'en 389, et qui nous donne cette contemplation sur cette incarnation du Verbe, en fait ce thème qu'on retrouvera très présent dans l'école française de spiritualité, je vous en citerai un texte tout à l'heure, et donc il nous décrit cet admirable échange où Dieu entre dans notre humanité pour que nous entrions eh bien, dans son histoire. Le Verbe de Dieu qui est éternel, invisible, incompréhensible, incorporel, principe né des principes, lumière née de la lumière, source de vie et de l'immortalité, empreinte fidèle du premier modèle, marque ineffaçable, ressemblance identique du Père, intention et pensée de celui-ci, progresse vers son image. Il prend chair pour sauver la chair, il s'unit à une âme raisonnable pour sauver mon âme. Il veut purifier le semblable par le semblable et il devient totalement homme, sauf en ce qui concerne le péché. Il est conçu par la Vierge, préalablement purifié par le Saint-Esprit dans son âme et dans sa chair, car s'il fallait honorer la génération, il fallait honorer davantage la virginité. Il se présente comme Dieu incarné, formant un seul être de deux principes opposés, la chair et l'esprit. L'esprit donnait la divinité, la chair était divinisé. Lui qui enrichit les autres s'appauvrit, car il adopte la pauvreté de ma chair pour que moi je m'enrichisse de sa divinité. Lui qui est plénitude s'anéantit, il se dépouille de sa propre gloire pour un peu de temps, afin que moi je participe à sa plénitude. Quel trésor de bonté! Quel grand mystère en ma faveur! J'ai reçu l'image et je ne l'ai pas gardée. Le Verbe a participé à ma chair afin de sauver l'image et de rendre la chair immortelle. Il s'unit à nous par une deuxième union, beaucoup plus étonnante que la première. Il fallait que l'homme soit sanctifié par un Dieu devenu homme. Après avoir terrassé notre tyran, il nous délivrerait et nous ramènerait vers lui par la médiation du Fils pour l'honneur du Père. C'est ainsi que le Fils se montre obéissant en toutes choses envers lui pour accomplir son plan de salut. Ce bon pasteur est venu rechercher la brebis égarée en donnant sa vie pour ses brebis. Sur les montagnes et les collines où tu offrais des sacrifices, il a retrouvé celle qui était égarée. Il l'a chargée sur ses épaules qui ont porté aussi le bois de la croix. Et après l'avoir saisie, il l'a ramenée à la vie d'en haut.
Merci Monsieur l'Abbé, c'est vrai de nous faire prendre conscience de cet énorme mystère. Donc je crois qu'il y a encore un texte de Saint Augustin maintenant.
Exactement, très court, très poétique aussi. « Ô bienheureuse chaumière », texte de ce grand-père de l'Église latine qui est né, vous le savez, à Tagaste en 354, qui est mort en 430, qui est d'origine berbère. Hein. Évêque d'Hippone, l'un des quatre grands-pères de l'Église latine avec saint Ambroise, saint Jérôme et bien sûr saint Grégoire le Grand. Voilà, donc il nous dit ceci. « Ô enfance extraordinaire à laquelle les astres sont soumis, quelle grandeur, quelle gloire immense dans celui devant les langes duquel les anges se prosternent, les astres assistent, les rois tremblent et les partisans de la sagesse se mettent à genoux. Ô bienheureuse chaumière, ô trône de Dieu, le second après le ciel, où ce n'est pas une lumière qui éclaire, mais une étoile. Ô céleste palais, dans lequel habite non pas un roi couvert de pierreries, mais un Dieu qui a pris corps, qui a pour couche délicate une dure crèche, pour plafond doré un toit de chaume, mais décoré par l'obéissance d'une étoile. Je suis saisi quand je vois les lampes et que je regarde les cieux. Je suis enflammé quand je vois dans une crèche un mendiant plus éclatant encore que les astres. » Voilà la contemplation de la crèche donc par saint Augustin. Et pour terminer, je vous citerai une prière du cardinal Pierre de Bérulle. Nous quittons les pères de l'Église pour l'École française de spiritualité. Le cardinal de Bérulle a beaucoup développé ce thème de l'admirable échange de ce Dieu qui s'incarne et se fait homme pour que l'homme lui-même soit transformé en lui, assimilé à lui. Et voici donc sa prière pour Noël. « Venez, ô Jésus, mon Seigneur. Venez, ô Jésus, mon Seigneur, naissez, vivez et vivez en la terre. Et si César ne vous sert point et ne vous offre point la terre qu'il a entre les mains, nous vous offrons la terre que nous avons, cette terre vivante et animée de nos cœurs. C'est la terre que vous cherchez, c'est le sujet de vos conquêtes, c'est le triomphe de vos victoires. C'est ce que vous voulez enlever avec vous au ciel. Nous vous l'offrons, Seigneur, nous vous offrons le monde que nous sommes, nous vous offrons tout ce que nous sommes. Ô Dieu naissant, Dieu enfant, Dieu mourant pour notre amour, sauvez-nous, ainsi soit-il. Et soyons donc bien, chers auditeurs, tous de vivantes crèches pour Jésus.
Écoutez, merci beaucoup, monsieur l'abbé. Donc on se retrouve demain, parce que là on va partir chez d'autres auteurs qui ne sont pas pères de l'Église, et nous partirons dans la littérature. À demain.
Merci.